La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
Ça y est, François Legault s'est mêlé du débat de l'heure, du moins du dossier qui est pas mal chaud en ce moment au Québec, le fameux campement pro-palestinien sur le terrain de l'Université McGill. Parce que là, déjà, on se souvient, là, je récapitule les événements de la semaine, un campement qui s'installe la semaine dernière en faveur, justement, du retrait de tout ce qui est investissement de l'Université McGill.
Mais samedi, la première journée, c'était... Campement, c'était quelques tentes, là.
Oui, quelques individus.
Il n'y avait pas de barricades, il n'y avait pas de faux plancher en bois, puis il n'y avait pas de canalisation. Puis...
Mais depuis, ben ça s'est transformé en véritable campement. Là. On est en train de se sédentariser, on pourrait dire comme ça, du côté du campement McGill. Et c'est devenu, là, au fil des jours, ben une installation beaucoup plus grande, beaucoup plus imposante, puis beaucoup plus permanente, là, avec des clôtures sur le côté.
Des étagères, des planchers de bois.
Oui, toutes sortes de matériel, des dons qui affluent d'ailleurs. Là, beaucoup de gens qui vont donner du matériel aux gens qui choisissent de passer la nuit et leur semaine, là, au fond, sur cet endroit-là. Et là, ben, ça avait déjà été rejeté du côté d'une injonction qui a été déposée de la part de deux étudiants pour qu'on démantèle le campement. Ça avait été, là, donc, refusé du côté de la Cour supérieure. Et là, aujourd'hui, alors que l'SPVM, depuis déjà un moment, dit évaluer ses options, regarder comment ils vont pouvoir intervenir auprès du campement. Mais là, voici François Legault, le premier ministre du Québec, lui met son pied à terre et dit au SPVM d'aller démanteler le campement. Et là, la question autour de tout ça, est-ce que c'est la job d'un premier ministre de faire ça?
Ben, on lui demande sa position, c'est sa job de la donner, mais il n'a pas donné de délai, hein?
Non. Il a dit, c'est à eux de voir dans quel ordre ils vont faire ça.
Je pense que, bon, l'opinion publique est là. L'opinion publique, en majorité, souhaite le démantèlement et surtout, les gens qui votent pour la CAQ. À mon avis, les gens là, qui sont bien pro cette manifestation-là sont surtout Québec solidaire, peut-être quelques libéraux. Mais à mon avis, la CAQ là, est dans son élément. Fait que, tu sais, il y a des gens qui ont interprété ça. Bon, ben là, le premier ministre prend pause. Mais il n'a pas donné de délai, là. Il a pas dit, il faut que ça soit enlevé avant minuit cette nuit ou demain. Donc, comprenez ce qu'il y a à comprendre. Ça sera démantelé un jour. Après ça, quand on lui a demandé quand, comment, ben là, moi, je me mêle pas de ça, là. La police fait ses évaluations. À partir du moment où tu mets ça dans les mains du SPVM, je donne un exemple bien concret. Aujourd'hui.
Oui.
Ben là, aujourd'hui, il y avait une contre-manifestation des gens pro-Israël qui allaient se faire juste devant le campement. Donc, tu avais une manifestation pro-Palestine d'un bord, pro-Israël de l'autre bord.
Les tensions ont monté, d'ailleurs.
Oui. Donc, pour les policiers, c'était bien plus prioritaire de séparer ces groupes-là, de gérer cette tension-là, d'éviter qu'il y ait un affrontement des groupes quand même qui, c'est des sujets hyper délicats, des sujets hyper sensibles. À mon avis, pour les policiers, le risque du jour, c'était pas le campement. C'était un éventuel affrontement entre un des manifestants puis une contre-manifestation. Et c'est pour ça que le niveau d'urgence que le SPVM y met, il semble pas... Tu sais, le SPVM semble pas capoter avec ce campement-là. Ils ont déjà vu pire, là. Ben regarde, hier soir, là, la manifestation annuelle anticapitaliste a viré à bien pire que ça en quelques minutes, là.
Ben oui, c'est ça. On se comprend qu'ils en ont plein les bras, le SPVM, en ce moment, avec des manifestations puis des défilés comme ça qui se font dans les rues. Hier, c'était cette manifestation-là, justement, là, tu le dis, anticapitaliste, où il y a encore eu de la casse, il y a encore eu des vitrines fracassées.
Pourtant, c'est des pacifistes, ce monde-là. T'sais, ils sont contre la police parce qu'ils disent que la police, c'est violent. Puis eux, ils se présentent comme des pacifistes puis ils cassent tout. Je comprends pas.
C'est difficile. C'est difficile à comprendre. Ils sont contre le système, Mario.
Oui. Mais
ils veulent qu'on entende la colère du peuple.
Oui. Mais c'est difficile aussi de comprendre que les policiers qui les voient faire là, dans leur face, Il y a eu une arrestation hier.
Oui.
Il y en a qui ont craché sur des journalistes, il y en a qui ont cassé des vitrines, plusieurs. En fait, les seuls qui ont été arrêtés, c'est ceux qui ont frappé des policiers. Fait que cracher, c'est un journaliste correct, cracher, c'est la police, tu rentres en dedans.
Oui. Donc, il y avait d'autres chats à fouetter. Il y avait une manifestation aussi pour le logement abordable qui se tenait aujourd'hui. Donc, on en avait plein les bras du côté du SPVM. Là, pas question tout de suite de démanteler le campement. D'ailleurs, la contre-manifestation s'est déroulée quand même là, sans heurte. Hein. Il n'y a pas eu là, de débordement malgré des invectives quand même là, qui se sont lancées d'un côté comme de l'autre. On a senti que la tension montait quand même d'un cran autour de tout ça. Bref, ça demeure quand même une situation qui est stable, non violente pour l'instant. Reste à voir là, exactement là, de quelle manière, mais surtout quand ça va être démantelé le campement, parce que pour l'instant, c'est flou autour de nous.
Oui, absolument.
Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
On a appris aujourd'hui que du côté de Québec solidaire, le siège qui est laissé vacant de co-porte-parole de Québec solidaire par le départ là, d'Émilie Lessard-Terrien va être comblé de manière intérimaire par Christine Labrie, là, elle-même qui s'était déjà lancée dans cette course-là là, contre Mme Lessard-Terrien, qui avait été défaite justement, là, une des trois candidates qui se portait à ce rôle-là. Ce qui en fait donc ben une candidate qui ne sera pas éligible donc pour la véritable course.
Ce qui peut laisser entendre quand tu regardes ça... bêtement, là, simplement que comme elle avait fini troisième, elle ne veut pas refaire à deux la course qu'ils ont faite à trois. Fait qu'elle laisse, comme en prenant l'intérim, ça veut dire qu'elle se présente pas dans la vraie course. Donc, elle laisse ni plus ni moins la place à Rouba Gazal. Moyennant que Mme Gazal veuille ça encore, parce qu'on ne l'a pas beaucoup entendu cette semaine.
Non, ou qu'il n'y ait pas d'autres femmes qui décident de se porter.
Ça, c'est une affaire.
Rôle-là.
Est-ce que Rouba Gazal serait élue par acclamation? Parce que là, d'autres femmes, il y en a plus tant que ça, des femmes très connues, là, dans mesure où, je pense pas que Benoît Massé veut revenir, Alejandra Mendez n'est pas super connue encore, une nouvelle députée, bon, le thème de l'environnement, c'est bon, mais est-ce qu'on la sent connue, prête à devenir co-porte-parole, je suis pas certain. Donc, moi, j'ai le sentiment que le seul opposition que pourrait avoir Rouba Gazal, c'est s'il y avait vraiment quelqu'un, là...
D'extérieur, un
ouais,
peu comme...
Gabriel Nadeau-Dubois, là. Quelqu'un qui vient défendre le discours, tout le contraire de ce que Gabriel Nadeau-Dubois a dit hier. Là. Quelqu'un qui veut garder deux porte-parole, qui veut pas changer la structure du parti, qui veut pas changer le programme du parti, qui dit c'est nos convictions, c'est nos affaires, on va pas mettre de l'eau dans notre soupe et diluer notre message pour s'approcher du pouvoir. Donc, ça, c'est peut-être ce qui pourrait se produire.
Oui, ça pourrait être une option, effectivement. Tu vois, ça m'était même pas passé par la tête. Donc, elle pourra pas se représenter, mais surtout, on sait maintenant que la fameuse course au leadership, on veut la faire dès l'automne. Si ça se fait dès l'automne, mais ça va être avant qu'on fasse toutes les modifications là, qu'on veut faire du côté des statuts, règlements du parti. Là. Ce qui fait en sorte aussi ben, qu'on va continuer ben, à financer cette course-là essentiellement avec de l'argent qui n'existe plus beaucoup là, du côté de Québec solidaire, parce qu'on sait que les coffres sont pas vide, mais ça va pas très bien. Côté financier, là, on avait dû renvoyer 3 employés, justement, du côté de Québec solidaire, après des résultats qui étaient le moins bons qu'anticipés aux dernières élections. Hein. Quand on fait des moins bons résultats, on obtient une moins grosse cagnotte aussi. Donc, ça reste à voir. Puis tout le monde a commenté ça un peu aussi, là, Gabriel Nadeau-Dubois, des réactions du côté du PQ, entre autres, le Pascal Bérubé, qui voyait ça vraiment, là, le retour de M. Dubois, Nadeau-Dubois, pour essayer de viser le pouvoir. Là, c'est rendu clair, là, le message.
Mais le message de Pascal Bérubé, essentiellement, quand il dit là, tout ce que veut Gabriel Nadeau-Dubois, il voit le premier ministre. Moi, je pense que lui, il allait exactement mettre le doigt dans le bobo des militants de Québec solidaire qui veulent pas ça, là, qui veulent pas les changements, pour leur dire, le gars, votre chef, tout ce qu'il veut, lui, c'est le pouvoir pour lui, puis tout ça. Et je pense que c'était très, très, très dirigé stratégiquement par Pascal Bérubé pour, chatouiller le gros orteil des gens chez Québec solidaire qui veulent pas voir Gabriel Nadeau-Dubois prendre tout le pouvoir.
Tout savoir en 24 minutes.
Sinon, on a appris que c'est très bientôt que la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbeault, va déposer son projet de loi qui va venir créer l'Agence Mobilité Infra Québec. C'est le nom que ça va porter. Puis c'est l'espèce de pendant, si on veut, c'est grossier ce que je dis, mais Santé Québec pour gérer la santé au Québec. Puis là, une autre agence, mais cette fois-ci, pour les transports au Québec, particulièrement les projets de transport en commun.
Parce que là, développer les futurs trajets, planifier les travaux. La ministre qui dit carrément que présentement, on n'a pas cette expertise-là au ministère des Transports.
C'est quand même un gros désaveu.
C'est un désaveu qu'on avait bien senti. Écoute, quand tu prends le dossier du tramway, puis tu l'envoies à CDPQ Infra, à la division infrastructure de la Caisse de dépôt et de placement, c'est comme avouer, dis, regarde, nous autres au gouvernement, c'est-à-dire qu'au ministère des Transports, on n'a pas les ressources. Tu dis finalement que ta Caisse de dépôt est plus apte à évaluer une situation de transport en commun puis proposer des scénarios que ton propre ministère des Transports. Je sais que ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens, mais le gouvernement avait déjà fait cet aveu en envoyant le dossier de tramway à la CDPQ.
Puis là, je vais reprendre des termes qui ont été utilisés par les députés de la CAQ, Mario, mais c'est un peu une équipe de Top Gun hein, qu'on veut aller chercher, là, oui. Parce qu'on va avoir une équipe de travail dédiée, un PDG qu'on veut nommer là, aussitôt que l'adoption de la loi est faite. Puis surtout, mais ce ne sera pas des gens là, qui vont être assujettis aux restrictions, par exemple, là, des salaires dans le milieu public, là, ce qui serait le cas, par exemple, au ministère des Transports. Là. On va pouvoir les payer les gros sous pour attirer encore une fois du gros personnel pour être capable de venir penser à ces projets-là. Puis c'est sûr que tu rentres, t'es PDG, tu fais partie de cette équipe de travail, tu commences pas doucement, c'est pas une petite rentrée scolaire tranquille. Il y a déjà une longue pile de dossiers dans le transport en commun au Québec puis en transport tout court qui attend. Là.
Beaucoup de dossiers qui ont été mis sur la glace, là, qui ont été mis en attente.
Le REM de l'Est qui doit être prolongé, le réseau de transport structurant de Québec, le tramway aussi.
La rive sud de Montréal, là, tout le dossier, là, pour aller se connecter au REM, il devait y avoir un tramway jusqu'à Longueuil. Mais non, il y a beaucoup de projets à l'heure actuelle qui étaient... En fait, on pouvait avoir l'impression qu'ils étaient plus avancés il y a un an ou deux, mettons, qu'aujourd'hui. Parce qu'entre-temps, on les a mis de côté, on les a mis, tu sais, ça à glace, mais on dit toujours temporairement, mais pendant ce temps-là, il se passe plus grand-chose.
Oui, puis ce qui reste à voir, c'est à quel point il va y avoir de la résistance aussi à l'intérieur du propre ministère, hein, ou des gens qui travaillent déjà sur ce genre de dossier-là.
Bien, dans le cas de l'Agence Santé Québec, tu faisais la comparaison, dans le cas de l'Agence Santé Québec, on l'a vu, la résistance aujourd'hui, là, les gens de la CSN qui sont allés interrompre un événement où Christian Dubé était avec la nouvelle PDG, Mme Biron, devait prendre la parole, puis ils ont jamais pu, l'événement n'a même pas pu suivre son cours. Là. Le syndicat, la CSN, a empêché la tenue normale de l'événement. Ça doit donner à Mme Biron un avant-goût de ce qui l'attend.
Tout savoir en 24 minutes.
Très intéressant point qui a été soulevé par la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, qui était en discussion avec nos collègues du bureau d'enquête de Québécois, puis qui ont fait des révélations qui, disons, étaient dans l'air, mais qui sont maintenant confirmées. Soit le fait que au Québec et au Canada, en ce moment, on s'inquiète particulièrement des milices armées extrémistes anti-gouvernement. Là. Moi qui suis bien évidemment les complots depuis longtemps, Mario, c'est quelque chose qui est dans le radar là, tout le temps. Là. C'est pas juste des individus isolés, complotistes, un peu fêlés, qui profèrent des menaces un peu partout. Là. Maintenant, pour la GRC, on dit là, que ces groupes-là, qui sont aussi organisés que le crime organisé lui-même, là. Des gens qui ont un réseau structuré, un financement, des armes aussi qui sont en train d'accumuler et qui deviennent, si on veut, l'espèce de principale préoccupation là, dans notre époque, de la GRC. Là. Avant les années 2000-2010, c'était le terrorisme, l'extrémisme religieux. Là. C'était vraiment ça dont on se préoccupait. Là. On se souviendra de tous les jeunes qui partaient, par exemple, rejoindre l'État islamique, qui se radicalisaient. Maintenant, c'est plus ça, là, la priorité numéro un de la GRC. C'est intéressant quand même de voir que là, on en est à avoir des inquiétudes similaires aux États qu'il y a déjà aux États-Unis.
Oui, j'allais dire ça. C'est vraiment un phénomène importé des États-Unis. Là. Il y a ça depuis longtemps, des milices anti-gouvernement. Puis comprenons-nous sur anti-gouvernement. C'est pas des gens qui sont contre le gouvernement à place puis qui se disent « Ah ben démocratiquement, on va aller voter contre, on va le débarquer, on va mettre quelqu'un d'autre à la place. » C'est des gens qui pensent que tout est organisé, même si tu changes de parti au pouvoir, tout est patenté par des forces supérieures ou des forces occultes. Qui souvent vont même pas voter, puis qui peuvent être prêts à poser des gestes violents.
Oui,
je te demande toujours c'est quoi le déclencheur, parce que souvent, on a l'impression que ces gens-là vont accumuler des armes, vont agir comme des vrais fous, mais poseront pas de gestes. Là, t'sais. S'il n'y a pas un élément déclencheur ou s'il n'y a rien, ils vont juste jamais agir.
Mais dans certains cas, il y en a, puis il y a plusieurs types de mouvements, là, comme ceux-là, Mario, là, ce serait trop long de faire toute la liste, mais si on prend le cas de figure d'un groupe qui avait déjà été, dont certains membres ont été arrêtés, démantelés. On se souviendra, juin 2022, GRC qui avait mené des perquisitions à Saint-Ferdinand, dans le centre du Québec, là, dans le coin de Plessisville aussi. Les gens étaient surpris. Perquisitions, pourquoi? Les groupes armés et tout. Puis c'est que sur place, il y avait un centre dans lequel on entraînait des membres du groupe Atomwaffen, qui est un groupe néo-nazi accélérationniste. Puis quand on dit accélérationniste, ce que ça veut dire, c'est qu'essentiellement, il y a des gens qui attendent, si on veut, l'espèce d'élément déclencheur, la fin du monde ou cet événement apocalyptique qui va venir. Pour un groupe accélérationniste, le but, c'est de le créer. C'est de faire du terrorisme, essentiellement, jusqu'à ce qu'il y ait cet effondrement de la société en place.
Une panique généralisée, que les institutions ne fonctionnent plus.
Exactement. Puis eux veulent profiter, si on veut, de cet effondrement qui est inévitable dans leur tête. Donc, vont vouloir le créer. Puis c'est dans des cas de groupe comme ça que c'est assez dangereux. Puis je rappelle, aux États-Unis, il y a des milices armées comme ça qui planifiaient d'enlever la gouverneure du Michigan puis de l'exécuter. Puis ils sont pas passés loin de mettre leur plan à exécution. C'est quand même intéressant de voir qu'on se préoccupe le plus intensément de ça maintenant.
Actualité.
Sinon, ça peut sembler étrange parce que on n'est plus à l'époque de la pandémie, je vais le dire comme ça.
C'est passé.
Mais dans les tribunaux, c'est encore une réalité, Mario.
Il reste quelques dossiers.
Il y a encore des dossiers à traiter, dont celui-là qui est assez intéressant, merci. Celui d'Adam Zdiwa, un homme de 24 ans, jeune homme, qui est rendu là, devant le tribunal. On s'est rendu compte que c'est probablement celui qui est à la tête d'une des plus grosses fraudes de passeports vaccinaux pendant la pandémie. C'est que lui, elle avait été employé par le CIUS de l'Est de l'île de Montréal en 2021, devient un de ses employés qui doit prendre les données des passeports vaccinaux puis rentrer ça dans le site et tout. Sauf que, avec des complices, il réussit à trouver des personnes qui, évidemment, ne veulent pas se faire vacciner, mais veulent quand même avoir la liberté de circuler puis d'aller dans des événements, des restaurants, des bars avec le passeport vaccinal. Évidemment, ils veulent quoi? Un faux passeport. Et là, on apprend que c'est au-dessus de 630 personnes qui ont reçu un faux passeport vaccinal de sa part. Là.
Donc, pas vacciné, mais il y avait une preuve de vaccination.
Lui prenait des rendez-vous, là, comme si ces gens-là étaient véritablement allés, là, indiquaient une heure, une date à laquelle ça avait été fait, prenait même le rendez-vous 28 jours plus tard pour la deuxième dose pour ces gens-là, opérait tout ça là, dans le système, même si les personnes, on se comprend, ne se sont jamais présentées pour aller se faire vacciner. Et ensuite, c'est des gens qui avaient leurs passeports vaccinaux. Mais ça, c'est que c'est au-dessus de 1000 passeports qu'il a réussi à faire de son côté. Pour un grand total, c'est les profits qui sont impressionnants. De 150 000 $ en espèces qu'il a empoché. C'est au-dessus de comme on a fait le calcul plutôt aujourd'hui, 230
$, c'est ça.
À peu près $ du passeport vaccinal. Il y a du monde qui était prêt à payer cher pour vrai. Là.
Mais toute cette affaire-là, payer, mais même lui, là, tout son ça me fait capoter. Puis en même temps, tu te dis, OK, ils ont lu des faussetés, ils ont lu des affaires épeurantes, mais ils sont vraiment devenu capoté avec le vaccin. Il avait vraiment peur du vaccin. Parce que, je veux dire, mettons, tu sais, du monde qui se donne tout ce trouble-là, mais c'est pas moi, pour voler des lingots d'or pour devenir millionnaire, tu dis, c'est des croches, c'est des bandits, mais ils essayent quelque chose. Mais c'est parce que là, tu fais tout ça pour éviter. Moi, tu te souviens, j'étais allé sur la première, deuxième dose, j'étais allé, c'était pas loin d'ici, au centre des congrès, je suis parti de TVA, je suis allé à pied, je suis venu animer. J'ai été là, c'était pas trop pire. À un moment donné, il y avait plus trop de monde pour la deuxième dose. C'était plus tranquille un peu. Puis ça m'a pris une demi-heure, puis je me suis venu ici animer mon émission.
C'était efficace, ça.
Non, ce que je veux dire, c'est que c'est une niaiserie, là. C'est une bébelle. Le lendemain, si tu mets ton doigt dessus, ça fait mal un petit peu, puis à peine. Puis je veux dire, comment t'en arrives à dire, non, pas moi. Là. Si tu passes ta peur des aiguilles, si tu penses que vraiment t'as lu, là, je sais pas, que tu vas mourir, ou t'as lu des affaires.
Même la peur des aiguilles, c'est pas le genre d'affaire qui
fait freiner. Non, ça, c'est pas vrai.
Ah ouais?
Ah, il y avait eu une étude de beaucoup que c'est des complotistes qui ont peur des aiguilles. Puis il y a mieux, c'est moins gênant. Quand t'es un gros gars tough avec une grosse voix là, puis des gros bras, c'est moins gênant de dire que t'as lu des affaires, puis toi, il t'embarquera pas avec le gouvernement. C'est moins gênant que de dire qu'il
Mais tu vois, je l'avais jamais vu.
Il y a eu une étude là-dessus.
Mais ça, c'est
il y avait un pourcentage. Non, mais c'est pas tous. Il y avait un pourcentage, une tranche, là, que dans le fond, il y a peur des aiguilles.
Ouais, c'est une phobie, hein? Une véritable phobie. On peut comprendre,
mais tout ça pour dire que c'est comme tu te donnes tout un trouble, tu te mets à risque de poursuite, tu dépenses de l'argent pour quelque chose qui est vraiment comme bye.
Oui, mais ça démontre à quel point, pour certaines personnes, qui, encore à ce jour, là, des groupes d'antivax, il y en a à la pelletée. C'est des gens qui sont convaincus pour vrai que si même si leurs proches le faisaient vacciner, ils faisaient une crise, une syncope, ils sont convaincus que ces gens-là vont mourir du vaccin ou vont développer des complications, veulent pas que leurs proches se fassent vacciner parce qu'ils ont peur des pertes, veulent pas se faire vacciner eux parce qu'ils veulent pas mourir, supposément. Je rappelle, pour tous les auditeurs, les gens qui sont avec nous, Marie et moi sommes vaccinés, nous sommes toujours vivants.
Ah non, ça va bien.
Vous connaissez des gens qui sont morts du vaccin?
J'ai des cheveux qui ont blanchi. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait regarder.
Les puces dans le haut de la caboche.
Peut-être des choses qu'il faudrait regarder dans les conséquences.
Économie.
Vous êtes tanné de payer cher pour votre essence en ce moment? Ben, attachez votre sucre parce que ça se peut que ça devienne encore pire dans les prochaines semaines. Ce matin, notre collègue Alexandre Dubé a reçu là, le président de l'Association des Canadiens pour l'énergie abordable, M. Dan McTagg, qui commente souvent... Excellent. Qui commente là, souvent les questions d'essence, là,
lui,
du prix à la pompe.
Lui, tu le reçois en entrevue. Tu peux poser n'importe quelle question sur le prix de l'essence dans toutes les provinces, dans toutes les années, partout. Lui, il suit ça pas à peu près.
Ouais, tu peux quasiment lui demander telle station-service à tel endroit.
Non, puis pourquoi, puis tu sais, qu'est-ce qui s'est passé là? Il est vraiment... Ouais.
Ouais.
Mais donc, lui, il prévoit 2$. Ben moi, je pense que c'est pas... Le baril a baissé un petit peu là, avec l'espoir d'un cessez-le-feu à Gaza.
Mais ce que lui analyse, par contre, puis il parle d'un délai de 3 semaines. Selon lui, d'ici 3 semaines, le litre va passer la barre psychologique du 2$. Pourquoi? Mais pas en raison du prix du baril même de Gaza. Il parle en fait des raffineries. Il y aura un manque de concurrence au niveau des raffineries en ce moment, du raffinage de l'essence. Puis il y a 2 raffineries qui ferment. En ce moment, une à Québec puis une à Montréal. Ça viendrait créer cette espèce de pression-là où il y a essentiellement moins de joueurs, donc ils peuvent se permettre de monter les prix. Puis ça ferait en sorte qu'on verrait bientôt là, une augmentation drastique là, de plusieurs sous du litre qui nous amènerait au-dessus de la barre des 2$. Donc, à voir si c'est une prédiction qui va se réaliser. Mais comme on vient de dire, malheureusement pour nous, M. McTagg est assez compétent.
Ouais,
merci.
Il a souvent raison.
Ouais, on peut le prendre au sérieux, malheureusement.
Le monde.
Les élections se suivent et se ressemblent, Mario. J'ai failli la chanter, mais c'est vrai pour vrai, parce que M. Trump a réalisé une entrevue, encore une autre, dans laquelle, ben, essentiellement, je sais que c'est pas surprenant, mais ça vaut la peine de le dire, il a dit qu'il refuserait de certifier, ou pas de certifier, mais plutôt... Il n'est pas de certain reconnaître les résultats de l'élection présidentielle 2024, ce qu'il avait déjà fait auparavant.
Non, mais ça me déprime. C'est comme je voyais cette entrevue-là ce matin, ce midi, je me disais, bon... C'est reparti parce que dans le fond, ça va être ça jusqu'à l'élection. Il va se faire demander, il va aller vous reconnaître les résultats. On dirait que c'est le même film qu'il rejoue, là.
Ben absolument. Il dit
mais
la même affaire.
S'il gagne,
là, c'est correct.
Là, aucun problème procédural. S'il gagne, tout est correct.
Mais si, parce que c'est ce qu'il dit. Si tout est conduit de manière honnête, je vais accepter les résultats. L'impression, il a demandé s'il s'attendait à ce qu'il y ait du grabuge, de la violence autour, est-ce qu'il allait condamner tout ça. Même affaire, encore une fois, il se fait repenter autour de ces questions-là en disant que, ben, si on gagne pas, ça dépend, vous savez. Bref, il a beau être poursuivi en ce moment pour ses rôles de l'assaut du Capitole, la violence qui s'en est suivie. Après
il le ferait.
Essentiellement, il refera la même chose. Il annonce haut et fort qu'il va refaire la même chose. Honnêtement, c'est des arguments que je pense que j'ai commencé à prendre. Quand je joue à des jeux de société, une petite game de Monopoly, là, j'accepterai pas les résultats si je perds.
Non,
juste
mais
si je gagne.
C'était. En même temps, c'était écrit dans le ciel. On connaît sa personnalité, c'est jamais de sa faute. Lui, il fait toujours ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de meilleur. C'est impossible. Il disait dans sa campagne, c'est impossible que je perde. Il disait, moi, je perds pas jamais. Fait que si je perds.
Quelqu'un a triché.
Mais sinon, mais c'est la preuve d'une tricherie. Tu comprends?
C'est béton comme argument.
Ben oui. Moi, je suis le meilleur, je perds jamais. Fait que si je perds, c'est une preuve hors de tout doute raisonnable qu'il y a eu tricherie. C'était au cœur de son argumentaire.
Le monde.
En terminant, rien pour calmer les paniques complotistes, quoi que je t'avoue, comme Mario, celle-là...
C'est bizarre, hein, c'est bol.
Elle me travaille un peu, parce que là, pour la deuxième fois de suite, il y a un lanceur d'alerte là, d'un ex-employé de Boeing. Boeing, la compagnie aérienne qui est évidemment, en ce moment, là, dans une grosse controverse, des pièces d'équipement qui tombent de leurs avions, toutes sortes d'avaries également qui sont survenues dans les derniers mois et qui font en sorte que là, c'est la panique totale chez le constructeur aérien. Mais là, c'est parce que c'est un deuxième lanceur d'alerte, là, un deuxième qui vient de
l'interne, donc qui racontait les façons de faire où on manquait à la sécurité.
Ouais, lui disait qu'il avait été renvoyé en 2023 parce qu'il avait pointé des failles de sécurité, des failles techniques sur les avions, puis on l'avait juste sacré dehors au lieu de l'écouter. À peu près la même chose qui est arrivée là dans le cas d'un autre lanceur d'alerte, monsieur Joshua Dean, qui
Dean, c'est celui qui est mort curieusement malade hier, mais Barrett, celui il y a deux mois, il s'était suicidé.
Oui, John Barnett, oui, pardonne-moi, c'est ça. John Barnett s'est suicidé. Puis on se comprend, il venait de donner une déposition. Il venait tout juste de donner une déposition aux avocats.
Deux, trois jours après, il est retrouvé dans son appartement mort.
Oui, dans le stationnement devant sa chambre d'hôtel, mort. Une balle dans la tête, on dit suicide. Là, M. Joshua Dean, cette fois-ci, lui, il meurt. Là, on parle d'une bactérie, un staphylocoque doré, résistant aux antibiotiques. Il avait une chance sur deux de mourir.
Il s'est pété une pneumonie, puis il est mort.
Puis il est mort.
45 ans en pleine forme.
Je veux pas lancer des théories du complot. Loin de moi l'idée de me lancer là-dedans. Mais c'est absolument étrange. Là, puis les gens qui spéculent autour de cette histoire-là...
Non, c'est ça. Écoute, ça peut tout à fait être un hasard. Ça peut. Tu sais, techniquement, un suicide, ça se peut. Exemple, ça se peut aussi que le gars a subi tellement de pression parce qu'on dit que l'autre, là, Barnett, les pressions sur lui avaient été débiles pour pas qu'il parle. Fait que ça se peut, là, tu sais, qu'il a pété au fret, que l'autre soit malade. Mais je veux dire, entre toi et moi, si tu te méfies de Boeing, puis si dans le monde de l'aviation, ça parle de ça, là, qu'on le veuille ou pas, dans le monde de l'aviation, ça parle de ça. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.